Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h15 et oui déjà on démarre ce Sport Campus un peu sur les chapeaux de roue et avec un peu de retard vu que les transports à Bordeaux continuent de faire des siennes, ça fait un petit moment déjà entre les tramways et les bus, excusez-nous du coup pour ce retard, mais nos invités arrivent, il y en a déjà un présent en studio, on va commencer tout de suite par un petit tour de table avec toi Alain. Salut Alain, comment tu vas aujourd'hui?
Je vais te dire quoi?
Nickel chrome. Et on accueille également Joris. Salut Joris.
Salut Mélissa, salut tout le monde.
Et puis Manon qui est présente. Salut Manon.
Bonjour à tous.
Et puis nous sommes déjà avec notre premier invité du jour. Il s'agit de Damien Tocatlian. Bonjour Damien, comment allez-vous?
Bonjour à tous et je vais très bien.
Alors on attend également Karima Medjedet qui va pas tarder à arriver, elle est en route, elle est en chemin, donc elle va nous rejoindre d'ici quelques petites minutes, mais je crois Alain tu voulais commencer l'émission par une dédicace.
Oui, j'en ai jamais fait depuis qu'on a débuté l'émission, mais là j'ai une amie de la première heure, ça fait plus de 55 ans quoi, qui est un petit peu malade, elle s'appelle Christine Elisa et je voudrais lui faire une petite dédicace et lui faire un gros bisou et beaucoup de courage Kiki.
Alors, cette émission est dédiée, consacrée à deux athlètes. Donc, il y a vous, Damien, et puis il y a Karima qui va arriver. Je te propose, Alain, qu'on démarre l'émission avec la présentation de Damien.
Ben déjà, j'aimerais dire aux auditeurs qu'ils mesurent un petit peu la chance qu'on a d'avoir des invités, parce qu'on a quand même Damien Tocatlian, qui est trois fois médaille olympique, je crois, c'est ça?
Et oui.
Une bronze et deux d'argent.
C'est exactement ça, mais c'est l'inverse.
J'avais étudié mes dossiers.
Hein. Oui, mais c'est bien, c'est bien.
Il n'en manque pas une, là?
Ben, si, il en manque une. Mais bon, elle va venir, j'espère, à Paris.
Tu pars pour Paris?
Ah oui, plus que jamais même.
Tu es en pleine préparation, là?
Oui, tout à fait.
Est-ce que j'aimerais, Damien, parce que bon, Damien Tocatlian, on connaît par rapport à ton parcours, mais c'est que tu nous expliques un petit peu que d'abord ton sport, ce que tu pratiques comme sport, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Et nous expliquer un petit peu comment tu es venu à ce sport-là, parce que je crois que tu as eu plusieurs embûches dans ta vie qui t'ont guidé là-dessus, non?
Oui, alors des embûches, non, des concours de circonstances, oui, et puis des choses qui font que la vie est escalée et pleine de surprises. Donc non, plutôt des chances finalement à l'arrivée. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une chance et j'espère que cette chance va être encore mise à l'épreuve pour Paris. D'abord, je fais de l'escrime. Donc, un sport pas très connu, mais bon, quand même. Hein, chaque Olympiade, c'est quand même un des sports les plus suivis à la télé. C'est le sport qui a ramené le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Et loin devant, alors maintenant, on commence à être rattrapé un peu par le judo et l'équitation, mais on est toujours en tête, avec de mémoire... plus de 115 médailles, enfin bon, voilà. Et comment j'ai commencé, comment j'en suis arrivé là? En fait, c'est tout simple, mon père faisait de l'escrime, donc j'ai été très innovant, j'ai fait de l'escrime aussi. Et puis voilà, j'ai eu une petite... alors là, je suis en situation de handicap aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, et donc j'ai fait de l'escrime debout jusqu'à mes 30 ans. Avec un petit niveau international.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Avant de concourir donc en sport handi, tu avais un niveau assez élevé ou pas?
Tout est relatif. Un petit niveau international junior. Voilà.
Ah, quand même.
Non, ce n'était pas non plus... voilà. Mais je connaissais bien l'escrime et j'ai toujours été très assidu à mes cours d'escrime. Parce que c'est pour moi une réelle passion. La preuve, hein, c'est que je suis toujours dedans, quoi.
Et pourquoi l'escrime alors? Qu'est-ce qui vous a fait vous orienter vers ce sport en particulier et pas un autre?
Alors, comme je vous l'ai dit, hein, mon père faisait de l'escrime, donc j'ai fait de l'escrime. Après, je faisais d'autres sports à côté. Et puis, j'étais plus orienté ski alpin et escrime. Et puis, la saisonnalité a fait que les compétitions d'escrime étaient plus tard que les compétitions de ski. Donc, et puis, elles ont repris plus tôt. Donc, je me suis retrouvé à être engagé avec mon club... sur des compétitions d'escrime, et quand le ski est venu me chercher, je leur ai dit que c'était trop tard, quoi, que j'étais parti pour l'escrime. Et puis après, une chose en amenant une autre, j'ai je suis resté très très impliqué dans l'escrime. Mais bon, le ski, c'est une réelle passion aussi. Puis d'autres sports, hein, j'ai fait du hand, j'ai fait un tout petit peu de tennis de table, enfin voilà quoi. Je fais 2-3 trucs.
Donc, parce que moi, je suis éducateur aussi. Je me bagarre contre les parents qui obligent les enfants à pratiquer leur sport. C'était vraiment ta vocation de faire l'escrime ou c'est papa?
Ah non, pas du tout. C'était pour vous dire que c'était pas du tout le choix de mes parents, c'est que mon père était dans un club et que moi, j'ai été inscrit dans le club concurrent de celui où mon père était trésorier. Donc non, c'était vraiment mon choix à moi et. Il n'y avait pas du tout d'histoire de famille là-dedans. Il était, je pense, très heureux que je fasse de l'escrime, mais ce n'était pas son choix à lui, c'était vraiment le mien.
Alors, il y a Karima qui vient d'arriver en studio, qui est en train de s'installer, ainsi que Claude Derioren. Bonjour Claude.
Bonjour.
Comment ça va depuis la dernière fois?
Je vais toujours très bien de toute façon.
Alors, Karima est donc en train de s'installer. Bonjour Karima.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Alors,
pluvieusement aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, pluvieusement. Alors, il faut se rapprocher un peu du micro pour qu'on puisse bien vous entendre.
C'est bon?
Oui, très bien, très très bien. Alors, on était en train de voir le parcours sportif de Damien Tocatlian, ce qui vous a amené à l'escrime et à avoir ce niveau d'athlète de haut niveau, justement. Et donc, peut-être on va présenter à présent Karima Medjeded.
Karima, c'est Alain. Bonjour, merci Alain. Beaucoup de ta présence parce que on sait que tu étais prise à l'abord. Ça n'a pas été facile. Pareil pour notre invité. J'ai expliqué tout à l'heure que nos auditeurs ont une grande chance d'avoir des personnalités, on va dire, comme Karima ou Damien, parce que vous avez un niveau sportif assez élevé. On va te poser la même question qu'à Damien. Tu démarres le sport et le judo, pourquoi?
En fait, j'ai perdu la vue très petite, entre 4 ans et 6 ans. J'ai été à l'internat directement, donc j'avais pas trop le choix, on va dire. Et on a testé plusieurs sports et j'ai choisi le judo parce que tout ce qui est sport co, malheureusement, le fait que je suis non-voyante complète, c'était plus compliqué, à part le cécifoot. Mais bon, le foot et moi, ça fait 1000. Hein.
Elle aurait pu faire de l'escrime, mais bon.
J'aurais pu, mais c'est pour les patients, ça, Damien.
mais quand moi, j'ai vu des combats de Karima. Tu vas puiser ça, où cette énergie que tu avais là, tu l'as puisée où? C'était du fait de te battre parce que tu savais que tu avais un handicap et qu'il faut aller au-dessus, ou t'es né avec et tu aurais été comme ça?
Non, parce qu'en fait le judo, vraiment j'ai testé beaucoup de sports quand j'étais petite, notamment l'aviron et autres, et je suis restée vraiment au judo, donc j'étais en club valide et j'ai percé déjà en valide quand j'étais à Toulouse. Et après, j'ai pu aller en équipe de France, mais même moi, je ne pensais pas y aller. Et puis, bien sûr, j'ai pu aller aux Jeux. Et je ne pensais pas du tout.
Alors, on a l'impression dans notre société que le handicap, en tout cas au niveau du sport, c'est un sujet qui est encore un peu tabou, que le sport, le handisport est beaucoup moins mis en avant que le sport dit normal, hein, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement médiatique par rapport au handisport aujourd'hui, et notamment aux Jeux paralympiques?
Damien, Karima?
Je pense que Rome s'est baffé en un jour. Voilà, et que... c'est toujours... effectivement, on peut voir ça comme ça, mais je pense que la médiatisation, certes, elle tarde à venir, mais elle vient. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Faut toujours voir le bon côté des choses.
Karima, toi, tu as fait de la compétition. T'es arrêté en quelle année, le judo?
Oula, ça me rajeunit pas, là. 2010.
D'accord. Quand tu es championne olympique en 2004, c'est ça, Athènes?
Oui.
Les conditions du sport handi, enfin des JO paralympiques par rapport à maintenant?
C'est sûr que, comme on dit, c'était plus. Maintenant, c'est plus médiatisé. Et au niveau communication, j'allais dire, si je peux me permettre ainsi, pour moi, ça reste très visuel. Aujourd'hui, c'est beaucoup de logos, beaucoup de plaquettes, beaucoup de. Par exemple, quand je veux. Je dis n'importe quoi. Quand je veux aller sur Internet et écouter, je sais pas, soit un combat de judo ou autre sur YouTube, aujourd'hui, c'est la musique que choisit le sportif. Et c'est que du visuel. À part cette musique-là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et on est coupé de la communication, malheureusement, en tant que déficient visuel.
Parmi nos invités, il faut signaler qu'on a aussi Claude Ayoren, qui est le monsieur organisation grand événement dans le Sud. Si, il faut les barrettes, il faut les citer. je voulais faire cet aparté parce que il faut dire que c'est grâce à Claude Ayoren si on peut se permettre d'avoir des personnalités qui viennent au micro. Et il fera ça, je crois, une fois par mois. Quand tu as des contacts comme Damien, comme Karima... qui font du sport un petit peu, on va dire, comme on vient de dire, qui n'est pas trop médiatisé. À ton niveau, à toi, tu en penses quoi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le sport handicapé ?
Mais déjà, une occasion comme celle-ci aujourd'hui que j'ai plus ou moins favorisée, mais si Radio Campus n'existait pas, mais cette présence n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, mais j'essaye de capter. Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est que je connais aussi bien Damien que Karima depuis pas mal de temps, notamment dans notre vie professionnelle UNSS, et qu'ils ont toujours, mais absolument toujours, répondu présent, alors parfois avec une minute de retard ou 10 minutes de retard, mais toujours, toujours présent lorsque.
Toujours à l'heure.
Oui, lorsqu'ils ont été sollicités pour rencontrer les scolaires et parler avec eux de l'aventure olympique, de leur handicap. Mais en général, ils parlent plutôt de l'aventure olympique et sportive que de leur handicap, l'handicap lui-même. Donc moi, je pense, comme disait. Disait Damien que Rome ne s'est pas fait en un jour, même si le Rome peut se boire en une heure.
Oui, ou même plus vite.
Mais on progresse. On progresse, il pourra en parler mieux que moi, mais il y a des structures qui se mettent en place, il y a des clubs qui se mettent en place avec certains labels, mais le label c'est une chose, après il faut le faire vivre. Il y a les comités départementaux, régionaux, nationaux, sport adapté et handisport. Il y a le CPSF, donc ça se structure. Mais après, c'est les hommes et les femmes qui font vivre. Et donc là, il y a encore pas mal de chemin à faire, ne serait-ce que pour trouver les techniciens, former les techniciens pour chaque sport en plus. Parce que chaque sport a vraiment en plus sa spécificité, d'autant plus que dans chaque sport, il y a des sous-sports ou sous-activités parce qu'il y a plusieurs handicaps. Mais là, il peut m'en parler mieux que moi.
Oui, j'allais te poser la question, Damien, un témoin. Là. Au niveau de l'épée, du fleuret, du sabre, il y a plusieurs handicaps. C'est-à-dire que c'est classé comment en catégorie ?
En fait, c'est très simple. En escrime, il y a trois catégories. Alors, je pars sur l'escrime fauteuil, hein, puisque effectivement, il y a aussi de l'escrime pour les malvoyants. Mais malheureusement, ils sont pas reconnus au niveau international. Alors, ça commence à venir. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de championnat du monde. Mais je sais que grâce à la fédération française et à la fédération italienne et la fédération polonaise, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place sur cette activité-là. Enfin, précisément l'escrime debout et donc pour les malvoyants. Mais donc ce qui est aujourd'hui olympique, c'est le para-escrime. En catégorie A et catégorie B. Et il existe une troisième catégorie, la catégorie C, qui, elle, n'est pas paralympique. Oui, exactement, exactement. Et ça ne fonctionne pas forcément mieux, d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, catégorie A, comme moi, des personnes qui ont un handicap léger, qui, en règle générale... oui, c'est le moins handicapant, en fait, le catégorie A. ABC, on descend dans le handicap.
La lourdeur du handicap.
Exactement. Donc, handicap léger, une amputation de la jambe, d'un genou bloqué, une hanche en vrac comme moi. Enfin voilà, des petites choses. Voilà. Grosso modo, on dit qu'en catégorie A, on peut utiliser nos abdominaux, donc on peut, quand on tombe, on va remonter tout seul. En catégorie B, tous les gens qui sont avec une situation de handicap, sans abdominaux ou assimilés. Voilà. Donc c'est le bras arrière qui va jouer l'abdominal et qui va faire en sorte que quand on tombe, on pousse sur les bras pour se remonter. Voilà, grosso modo, les deux grandes catégories. Et la catégorie C, donc, qui n'est pas paralympique, c'est pour les tétraplégiques et assimilés. Donc handicap beaucoup plus lourd. Et puis des dispositions un peu différentes. Voilà. Par contre, catégorie C peut tirer en catégorie B et un catégorie B peut tirer en catégorie A. Voilà, c'est les choses qu'il faut savoir.
On parle d'handicap moteur, là, mais est-ce qu'il y a des compétitions pour des handicaps
Alors, ça ne dépend pas de la fédération handisport, ça dépend du sport adapté. Et alors, il n'y a pas de compétition, à ma connaissance, il n'y a pas de compétition et de circuits internationaux pour le sport adapté. Mais il y a de l'escrime sport adapté en France, bien évidemment.
Karima, toi, le judo, c'est classé comment aussi par catégorie ? Il y a plusieurs handicaps ou...
Oui, alors on va dire à mon époque, parce que ça a changé, donc du coup ça tombe très bien. Ah oui, c'est... pardon. Donc pareil, il y a trois catégories. Par contre, nous, c'est B1, c'est vraiment non-voyant complet. B2, on voit un peu mieux. Et B3, pour vous faire simple, la personne va se replacer directement en face de l'adversaire, alors que l'arbitre me guide pour aller vers l'adversaire. Tandis qu'aujourd'hui, moi je trouve ça d'ailleurs pas normal, c'est une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, ils ont séparé non-voyants et malvoyants. Sauf que moi, à l'époque, quand je combattais, j'avais pas beaucoup de non-voyants. Et je trouve qu'entre non-voyants et malvoyants vraiment séparés, du coup, il y a moins de combats. Et moi, en plus, j'étais en club valide. Donc je trouve ça discriminant pour nous.
Ouais. Et, mais explique-nous un petit peu comme moi, parce que bon, t'es non-voyante, hein. Comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui te parle, qui te guide ? Ça se passe comment ?
Donc en fait, comme je disais, l'arbitre m'amène près de l'adversaire. Donc on tient le kimono, le kumikata, dès le début pour qu'on puisse repérer. Après, justement, quand j'avais des malvoyantes, elles en profitaient de mettre le bras un peu plus au-dessus parce que c'est à celle qui va attaquer le plus vite. C'est pour ça, quand on nous dit « Oui, mais vous ne voyez pas, vous faites comment ?» Ben, en fait, nous, il faut qu'on ait la manche, quoi, comme tout judoka. Une fois qu'on a posé les mains sur le kimono, il n'y a pas de différence, hein. C'est juste qu'il faut les poser et c'est très compliqué. Et quand je faisais en valide, c'était encore plus compliqué pour moi.
Mais au judo, bon, parce que j'ai des enfants qui ont fait du judo, j'ai vu des compétitions de judo, il y a l'aspect tactique. Et quand on est non-voyante, on le programme comment cet aspect
là,
tactique ?
Là, c'est le ressenti en fait. Parce qu'il y a des adversaires que je vais connaître et d'autres pas. Donc c'est le ressenti et c'est des années entières, quoi. C'est un apprentissage, c'est très 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 long. Parce que ben, souvent... Par exemple, les valides, ils vont regarder ce qui se passe et ils vont voir les combats d'avance, sauf que moi, non. Donc, c'est tout à la sensation.
D'accord.
C'est le ressenti.
D'accord.
Et après, on va me décrire le combat et je vais essayer de le décrypter. Et des fois, ce n'est pas évident parce que les combats, comme on voit, ça peut être très long. Golden score jusqu'au bout, comme quelques secondes.
Est-ce que c'est pas plutôt la, parce que le judo dans les petites catégories, je suppose que tu tires dans les petites catégories de poids, je parle.
Moins de 48 kilos.
Voilà, de poids. C'est vachement technique. Et plus on monte en catégorie, quand on voit Teddy Riner, c'est beaucoup plus sur de la puissance. Et est-ce que quand tu es en catégorie non-voyant, on ne gère pas ces combats sur plutôt la puissance que la technique ?
Après, ça dépend, parce que moi, en toute honnêteté, j'étais moins physique que d'autres dans ma catégorie. Moi, c'était plutôt en vitesse. Une fois que je passais mon spécial, on va dire mon mouvement, il fallait que j'aille très, très vite. Alors que, si je peux me permettre, le judo, c'est beaucoup bourrin. Et moi, je n'étais pas dans ce style-là, en fait. C'était mon mouvement. S'il passait, si je le sentais, je le faisais. Et les autres, c'était plutôt en force et bourrinage. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de blessés, en fait.
Ami du judo, Karima vous salue. Oui, Claude.
Oui, Karima a employé le terme tout à l'heure, ressenti. Alors, c'est pas pour parler de judo que j'interviens. C'est à propos, justement, de ressenti. Parce que Karima, j'arrive à la croiser assez souvent. Et dès que je m'approche d'elle ou que je dis lui...
Mais ne dis pas tout.
Je lui dis juste bonjour. Elle sait qui je suis. Et pourtant, elle brasse beaucoup de monde. Donc, je pense qu'elle a surdéveloppé certains sens, notamment l'ouïe. Dernièrement, puisqu'on s'est vus tous les trois lors de la journée paralympique.
Exactement.
Qui était début octobre au Krebs, et j'ai ramené donc Karima, non pas chez elle, mais à l'arrêt de bus, puisqu'elle est de tram, puisqu'elle est complètement indépendante, et elle a réussi à quand même me dire que j'avais une veste sombre. Elle avait ressenti, et aujourd'hui, sachant que ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, elle me dit ah, tu n'as pas la même veste que la dernière fois. Donc, à la fois, elle intègre, elle mémorise certaines choses et elle les rattache à une personne, puisque ma veste, Claude, enfin,
C'est pas une question d'odeur.
Ah, peut-être.
Après,
peut-être.
Je capte beaucoup les odeurs au niveau des parfums,
oui.
Ou autre.
Voilà, donc.
Mais c'est le sport qui t'a développé ça ou.
C'est ma déficience visuelle, on va dire plutôt.
Ou tu t'y es obligé un petit peu, l'instinct que tu as de deviner tant de choses.
Ben, en fait, je fais autrement puisque je ne peux pas percevoir comme vous avec la vue. Donc, c'est au fil du temps. Et comme j'ai beaucoup travaillé aussi auprès des jeunes, j'ai forgé tout ça, quoi.
Tu as entraîné les jeunes ?
J'ai fait des initiations. Je n'ai pas été prof, mais c'est vrai que je faisais pas mal de cours.
Mais des 17 ans valides ?
Comment ?
Tu as entraîné des jeunes valides ?
Je faisais même des cours dans mon propre club aussi, ouais. Je faisais
fabuleux,
entraînement, l'échauffement.
C'est fabuleux, ça, parce qu'il y a un mélange.
À l'aveuglette, mais c'est comme ça.
Oui, à l'aveuglette, comme tu dis. Et toi, Damien, tu oui. donnes des cours ou tu as,
Oui,
tu,
moi j'ai un...
Tu dispatches ?
Oui, j'ai un diplôme de... J'ai un brevet d'État. Et donc, oui, effectivement, j'entraîne.
Et tu entraînes à quel niveau ?
J'ai un petit club sur Limoges, voilà. Et,
ah bon ?
Oui.
Je suis originaire de Limoges. Hein.
Ah oui. Voilà.
D'accord. Et c'est pareil, c'est parce que tu as envie de rendre à l'escrime ce qu'elle t'a donné ou c'est parce que c'est une passion, quoi ?
La passion, et puis en fait, c'est un moyen de pratiquer l'escrime. Dans mon cursus, en fait, voilà, j'étais amené aussi à... C'est la complétude du sport, en fait. Donc, du coup, j'étais amené à enseigner. C'est très, très gratifiant aussi lorsqu'on arrive à transmettre. Et oui, c'est de la transmission aussi, oui, tout à fait.
Ouais, c'est fait. Moi, je le fais au niveau du foot. Et c'est vrai que tout ce qu'on a appris, on a envie de on le rend, quoi, en fait.
Voilà.
C'est pas un sport, ça, le foot.
On essaie,
c'est pas un sport, ça.
Ah bon? Alors, Karima est venue pour nous tailler, judoka, footballeur. Tout va y passer.
Alors, une question pour Damien, qui, donc, toi, tu es en train de t'entraîner pour les JO 2024.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement? Comment ça se passe? Est-ce que tu pratiques avec des valides ou des gens de ta catégorie? Et combien d'heures par semaine tu t'entraînes?
Alors, je voulais que je vous dise ce que je devrais faire ou ce que je fais réellement. Parce qu'en fait, c'est très compliqué aujourd'hui. J'ai une situation un peu particulière. Et oui, alors, oui, pour pouvoir s'entraîner, il faut que je m'entraîne avec des valides. Donc, si des escrimeurs m'entendent, ben, ils sont les bienvenus. N'hésite pas à venir m'appeler pour tirer avec moi, il n'y a aucun problème. Et voilà, des valides, de l'opposition, des leçons. Ça m'amène à faire des déplacements aussi pour aller en stage dans d'autres clubs et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui puisque, un, j'ai un travail et que deux, les semaines n'ont que 35 heures enfin, pour les salariés. Voilà.
Donc un travail à temps plein.
Exactement.
Donc moins de temps aussi pour s'entraîner, la fatigue qui s'accumule.
Il n'y a pas de fatigue quand on fait du sport hein, de haut niveau.
C'est la bonne
voilà,
fatigue.
Exactement.
De la bonne fatigue. Et quels sont donc tes besoins pour aujourd'hui?
Mes besoins.
Au niveau sportif
Au niveau sportif, bah, du temps. Aussi, il y a plein de choses qui doivent être prises en compte d'un point de vue financier, pour les compétitions, pour tout ce qui fait que du sport de haut niveau. Mais ça, c'est pas que moi, hein, c'est pour tous les sportifs. Hein, c'est des entraîneurs, c'est de la préparation technique, de la préparation physique, mentale. Ce sont des soins, de la kiné, de l'ostéo, des soins de récupération. Voilà, tout ça, c'est tout ça qu'on doit gérer quand on fait du haut niveau. Et ça doit rentrer dans un emploi du temps, ça doit rentrer dans un budget. Et voilà les deux grandes lignes qu'un sportif doit mettre en place pour pouvoir performer, en fait. Donc, voilà. Et moi, aujourd'hui, malheureusement, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux grandes lignes, j'ai...
Mais tu es sur Limoges, là ?
Non, je suis sur Bordeaux. Je fais des allers-retours.
Il y a des bons clubs ici, il y a le CAM, il y a pas mal de clubs.
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'étais... On dit bassiste un jour, bassiste toujours. Hein, donc, j'étais bassiste pendant 20 ans. Donc, voilà, on s'est un petit peu... embrouillé avec le président de la section escrime, mais qui est maintenant parti. Donc, nouveau président, nouvelle situation. Donc, je désespère pas pouvoir aller m'entraîner avec le bec très rapidement. Donc, voilà, la porte est grande ouverte, enfin, j'espère. En tout cas, pour moi. Et puis, oui, il y a le CAM, il y a aussi un club... à Pessac, il y a aussi un club au Bouscat, il y a aussi un autre club...
Mais ces gens-là sont prêts à t'accueillir pour t'entraîner ou pas ?
Alors, il y a des situations un peu particulières.
Quand on fait...
Bah, parce qu'il y a toujours des histoires de sous, il y a toujours des histoires
on va y venir.
De personnes, il y a toujours ces histoires-là, quoi, voilà. Donc, c'est compliqué.
Mais j'arrive pas... tu vas pas me faire comprendre, là, que
Non, il y a des choses qui sont pas compréhensibles.
Des sparring partners, on va appeler ça comme ça, parce que t'en as besoin, ils se font rémunérer.
Eh bien, je suis prêt à les rémunérer, en tout cas, voilà.
Ah, d'accord. C'est toi qui es prêt à rémunérer vraiment
pour trouver du monde, oui, bien sûr.
Parce que tu ne trouves pas de gens bénévoles qui se disent, tiens, je vais tirer le coup avec Damien Tocatian qui est quand même médaille olympique, et je ne sais pas, c'est une gloire, non ?
Bah, ça devrait, après je suis mal placé pour en parler, mais...
Ou ils ont peur de perdre.
Peut-être.
Oui, Claude ?
Non, c'était juste pour dire que je vais vous faire faux bond parce que j'ai rendez-vous au Girondin de Bordeaux dans 20 minutes. Je dois prendre la rocade. Donc, c'était pour m'excuser.
Est-ce que c'est pour amener Franz Sergio à l'aéroport ?
Éventuellement, j'ai amené Karima ici, donc je peux faire taxi. donc et,
ça, c'est fait.
Et vous donner peut-être rendez-vous dans un mois avec deux invités certainement aussi prestigieux que les nôtres. Voilà, mais remercier pour Alain pour tout ce qu'il fait au sein de la radio, cette mise en lumière des sportifs du quotidien comme les sportifs de très haut niveau.
Et Radio Campus de m'accueillir.
Et bien sûr.
Merci à toi, Claude.
Merci à toi aussi.
On va parler un petit peu avec Karima. Karima, toi, tu as arrêté le judo. Tu nous l'as dit tout à l'heure, depuis 2010, c'est ça ?
Oui.
Et j'ai cru comprendre que tu t'es essayé dans un autre sport.
J'ai testé le triathlon pendant un an.
Ouais.
Mais on m'entend quand même là, non ?
Non. Essaye de t'approcher un petit peu, Karima.
Ouais, mais c'est trop. Vous m'entendez pas, Manon ? Tu m'entends pas ?
Voilà, comme ça, c'est bien.
Ah ouais,
c'est pour le son.
Et j'ai testé le triathlon parce que je me suis dit, bon, le judo, je sais très bien, c'est beaucoup de torsions. On sait bien les judokas, c'est les articulations, les genoux. Moi, c'était surtout les genoux. Et du coup, j'ai voulu tester le triathlon parce que m'arrêter comme ça, parce que je faisais aussi de la course à pied à côté. Je faisais du 10 km. Et malheureusement, pour le genou, c'était pas bon non plus. Je me suis dit, oh, quand même, soyons fous jusqu'au bout. J'ai testé un an et le docteur, il a dit, non, ça suffit, faut arrêter. Du coup, du jour au lendemain, c'est très compliqué quand on fait du sport depuis très longtemps.
Oui. Et donc tu fais plus du tout le sport ?
Ben, je marche pas mal, mais malheureusement j'ai plus le droit de courir. Pédaler, j'ai un tandem, j'avais plus de guides, on va dire, des potes qui venaient courir avec moi, plutôt que pédaler en tandem, parce que ben, le tandem, il faut venir le chercher à domicile, je peux pas l'amener comme ça dans le tram, ça prend de la place, quoi. Alors que tout le monde maintenant aujourd'hui a son vélo, donc du coup c'est un peu compliqué.
Et en parlant de blessures, hein, la blessure, c'est un peu la hantise de tout sportif. Est-ce que quand on part avec un handicap, on a encore peut-être davantage peur de se faire mal ?
Pas spécialement. Non, moi, c'est vraiment dans l'endurance, dans les entraînements que nous avons. Parce qu'en plus, comme je disais, je suis dans les petites catégories et je faisais autant que ceux qui faisaient plus de 100 kilos et autres. Et je faisais des trainings, comme on dirait, de malade, quoi. Donc... force, à un moment donné, la machine, elle pousse tellement que ben, ouais, on est obligé de se blesser. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les jeunes se blessaient de plus en plus.
Ça vient de quoi, d'après toi?
Ben, pour moi, c'est pas assez d'échauffement, pas assez d'étirement, surtout. Et puis, ben, ouais, c'est l'hygiène de vie, c'est jeune.
Les entraînements trop poussés, peut-être aussi, non ?
Oui, déjà ça. Et puis les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup justement, je disais tout à l'heure, le visuel, les réseaux, le téléphone.
Le spectacle.
Voilà. Et puis du coup, dormir, c'est pas trop ça. Ils vont dormir, hein, mais c'est manque un peu d'hygiène, quoi.
Et pour Damien ?
Je pense qu'on est égaux en fait face à la blessure, hein, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Personne n'est à l'abri de se blesser. Alors oui, effectivement, je pense que ça passe par une hygiène de vie, une qualité de vie qui fait qu'on va moins se blesser. Donc c'est la récupération, c'est les étirements évidemment. Et puis c'est aussi une pratique à son niveau. Je pense que quand on se blesse, c'est quelquefois on est allé un peu trop loin, trop fort. Non, il faut rester à son niveau et pas être présomptueux de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Après, sur les jeunes, bon, je ne sais pas s'ils se blessent plus aujourd'hui qu'avant. Bon,
Pour moi, oui.
Parce qu'on l'a pas dit, mais toi, Damien, tu as 52 ans.
Aïe.
Et oui, aïe. Et tu es encore compétiteur.
52.
Parce qu'à chaque fois, je te dis que j'ai 26, hein, mais...
Je crois pas, 52.
Est-ce que c'est courant, ça, dans le milieu de l'escrime, d'être toujours en compétition à cet âge ? Est-ce que c'est un sport qui se prête à ça ? Comment ça se passe ?
Alors, je sais pas trop, hein, si c'est... Enfin, oui, je sais qu'on n'est pas nombreux. D'ailleurs, je suis le seul, au niveau international, à avoir... cet âge-là, enfin on est deux en fait, un à l'épée et puis moi, un autre français, hein, qui s'appelle Robert Citerne, pour ceux qui le connaissent, il a été exactement toujours sur le circuit. Oh, il a 10 ans de plus que moi, voilà, t'imagines. Et donc puis j'espère, enfin je pense qu'il va s'arrêter aussi après Paris, donc voilà. Et non, je pense que pour faire de l'escrime, il faut surtout, enfin dans tous les sports, c'est une question de motivation. Voilà. Je pense que j'ai pas encore fini de faire ce que j'ai à faire en tant qu'athlète. Donc ça ne saurait tarder. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore focus sur la performance. Et franchement, pour l'instant, tant que je reste performant, j'ai pas de raison d'arrêter aujourd'hui. Voilà, je suis numéro 4 mondial. Voilà.
C'est Paris qui t'a motivé à continuer ?
Ah, c'est quand même... retour de Tokyo, bon déjà je pense que j'avais pas les éléments qui ont fait que pour Tokyo, j'ai pu être plus performante que ce que je n'ai été. On fait une médaille de bronze par équipe au fleuret arraché de dure lutte contre la Russie. Bon, c'était bien, mais comme tout compétiteur, l'idée, c'est quand même l'or. Hein. Donc, faire des jeux organisés chez soi, à Paris, c'est... Et puis, la temporalité. Tokyo étant déplacé d'un an, on n'a pas 4 ans à attendre Paris, c'est 3 ans. Pour un sportif, finalement, ça fait très court en termes de préparation. Les sélectives là, commencent la semaine prochaine pour nous, à l'escrime, pour les Jeux de Paris. Donc, voilà, on est tout de suite dans le bain. Donc, je n'ai pas eu le temps de décrocher, où je suis toujours resté à m'entraîner pour ça. Donc, voilà, et puis ça va être une telle fête que pour rien au monde, je manquerai ça. Quoi.
C'est une essence de vie pour Damien, l'épée ?
L'escrime, oui, je ne peux pas dire autrement, oui, forcément.
C'est... L'après ?
Après, mais comme je l'ai dit, je suis entraîneur, je suis aussi arbitre international, donc il ne me restera pas beaucoup de temps à faire dans l'arbitrage, puisqu'il y a une limite d'âge à 60 ans, je reprendrai un peu l'arbitrage que j'ai laissé de côté depuis un petit bout de temps là, pour justement me consacrer au para-escrime. Mais oui, l'enseignement, peut-être prendre en charge l'équipe de France, enfin on verra. Pour l'instant, c'est pas l'objectif.
Ça sera dans l'épée, quoi qu'il arrive. Enfin, dans l'escrime.
Dans l'escrime, oui. Parce que, aujourd'hui, je pense que je connais un petit peu. Je sais de quoi je parle quand je parle d'escrime. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe dans un autre sport. Après, je ne suis pas. Peut-être que ça sera l'occasion aussi de faire d'autres sports, aller s'essayer sur d'autres pratiques. Voilà. Je laisse l'avenir décider de ce que je ferai. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est Paris, et que pour l'instant, ça occupe bien mes pensées, et on verra ensuite.
Joris ?
Est-ce que quand on est athlète en e-sport de haut niveau, c'est possible de vivre de son sport ? Ou c'est vraiment quelque chose de très rare, voire impossible ?
Je pense que c'est possible, il y en a qui le font. Alors, pas moi, voilà, okay. Clairement. C'est plutôt l'inverse. Je travaille pour payer mes déplacements et pour payer ma préparation. Non, je ne gagne pas d'argent avec le sport, bien au contraire. Voilà, ça me coûte de l'argent. Et justement, je recherche très activement des partenaires, des entreprises, des personnes qui veulent me soutenir et qui veulent participer à l'aventure avec moi. Elles sont les bienvenues. Aujourd'hui, le budget est très loin d'être bouclé. Donc voilà.
Oui, Damien m'en avait parlé. En offre, qui était à la recherche de sponsors. Alors, c'est vrai qu'il y a des sportifs, on va dire, valides, qui en vomissent des sponsors, ils en ont trop. Donc, s'il y en a quelques-uns qui voudraient partager un petit peu le bout de gâteau, il y a des sportifs qui attendent que ça. Quoi.
Exactement. Et puis, surtout qu'on n'est pas sur des budgets qui sont gastronomiques comme ça peut être sur d'autres sports. Enfin, voilà. Moi, à 30 000 euros par an, je suis roi carotte. Oui,
donc c'est pas les budgets que l'on voit. Hein.
Oui, voilà.
Et Karima, tu as fait 2 Olympiades, c'est ça ? Une victorieuse, une moins.
2 et la 3e, j'ai été blessée, donc j'ai ma place, mais j'ai laissé ma place.
C'est ça, voilà, t'as participé à 2, on va dire physiquement, oui. T'as participé à 2, c'est ça.
Oui.
Et quand tu entends parler de Paris 2024, ça te laisse pas quelques regrets ?
Un petit peu, mais ça fout un coup de vieux quand même.
Mais tu n'aurais pas aimé participer en France ?
Si, j'aurais aimé, mais bon, vu toutes les blessures, je savais que de toute façon, j'aurais pas pu aller plus loin.
Dans la tête d'un sportif comme Karima ou comme Damien, les JO, ça veut dire quoi par rapport à des championnats du monde ou à des intercontinentales ? C'est quoi les JO ?
C'est le summum pour un sportif, en fait. On ne peut pas aller plus haut.
C'est le Graal.
Tu prends une médaille d'argent aux JO et tu prends une médaille d'or aux championnats du monde. Laquelle tu préfères ?
C'est sûr que c'est celle des Jeux.
Ça ne se discute même pas.
C'est vrai ?
Oui, complètement.
Puis moi, de toute façon, ça restera historique parce que les Jeux d'Athènes en 2004, c'était les premiers Jeux paralympiques féminins. C'était encore macho, n'est-ce pas, en handisport. Et du coup, je fais le premier combat et je gagne la première médaille de la délégation française. Donc ça restera un souvenir pour moi. Et j'ai terminé ma carrière en 2010. Et je fais 3, en sachant qu'en judo, faire 3, c'est très bien. Si on ne peut pas être premier ou deuxième, malheureusement, troisième, il faut tout remonter le tableau. En judo, c'est super dur.
Oui.
Et du coup, je fais 3e et je suis la seule médaillée de l'équipe handisport en judo. Donc pour moi, ça restera un souvenir. Et en sachant que je suis dans les féminines, Je suis la seule non-voyante.
Ouais, c'était un exploit. Hein. Et à l'époque, tu étais en club dans la région là.
J'ai commencé à Toulouse en valide.
Oui.
Et après, j'étais en équipe de France et j'étais à Bordeaux. Mais j'étais déjà blessée, malheureusement.
Tu étais déjà blessée.
Donc, j'ai galéré.
Tu étais dans quel club à l'époque? Je ne m'en souviens plus, là, ici. Là.
J'ai été Martignas, au... Justement, j'étais... Non, pas du tout. Ça, tu confonds avec Marie-Delphine.
Ah, voilà, ok. Okay.
J'étais au CAM, là-bas, vers Stellin, là-bas. Mm. Et après, j'ai été à la MBV, à Cours Aristide Briand.
D'accord.
Arts martiaux Bordeaux-Victoire.
Damien nous parle des difficultés qu'il a à trouver des sponsors, à se faire... à pouvoir travailler correctement. À ton époque, toi, tu finançais comment?
J'en ai jamais eu aucun. Et le souvenir que j'ai même acheté un kimono pour pouvoir faire mes Jeux mondiaux.
D'accord.
Mon dernier championnat du monde, pardon.
C'est... Mais je vais prendre un exemple. Teddy Riner, il ne s'achète pas son kimono, que je sache, non?
Ben, je ne m'appelle pas Teddy Riner.
Enfin, lui, il peut se l'acheter, mais bon.
Oui, oui. David Douillet, c'est pas la même, en fait. C'est Karima Medjeded, elle ne voit pas. Son kimono, malheureusement, c'est... J'allais dire, si je peux me permettre ainsi, au vu de sponsors, la déficience visuelle, c'est très méconnu.
Oui, mais
on ne va pas me dire oui.
Mais il y a la breloque en or, quand même. Il y a la breloque, il y a la médaille, il y a la gloire.
Sauf que je vais vous donner une petite anecdote. Frédéric Jossinet, qui est en valide en moins de 48 comme moi, elle a été seconde à Athènes, on est d'accord. Elle a eu 40 000 euros. Et à l'époque, j'étais donc médaillée d'or, j'ai eu 6 000 euros. Et aujourd'hui, tout le monde a maintenant 100 000 euros en tant que médaillée d'or, que ce soit valide ou non valide.
Ouais, c'est un...
Et pour encore la petite histoire, même moi, ça m'a marqué. J'ai dû lui remettre, c'était un trophée qui s'appelait le kimono d'or, alors qu'elle était en argent, et réellement, c'est moi qui ai eu l'or. Donc ça, j'allais dire, ça a questionné beaucoup de monde. C'est toi qui es médaillé d'or,
et c'est elle
en paralympique, et c'est toi qui remets le trophée kimono d'or à une valide qui a été médaillée d'argent. On en est jusque-là, en fait.
Je te sens remonter un petit peu, là.
Ouais, je trouve pas ça... Je sais pas, au niveau communication, je trouve que c'est un peu déplacé, on va dire, gentiment.
Le judo, t'as pas rendu ce que tu lui as donné, quoi, on va dire ça.
C'est pas ça, c'est que... Après, on dit la différence, elle restera toujours, malheureusement. Que ce soit communication ou autre. On voit bien que celui qui est valide, il va être plus mis en valeur que celui qui est pas valide.
Et ça t'a aidé après pour la suite de ta carrière? Le judo t'a aidé ou pas?
Déjà, oui. Avec tous les obstacles qu'il y a aujourd'hui en ville, heureusement que j'ai le réflexe de judoka, hein, par exemple. Et puis,
Je parle professionnellement. Est-ce que le judo t'a suivi à ton après-carrière, quoi?
Ah oui, c'est sûr que j'aurais pas eu mon palmarès. J'aurais pas été agent en région, hein, je vous cache pas.
D'accord. Et Damien, l'épée, ça, quand tu arrêtes une carrière d'épée, on te suit, on t'aide. Je parle... Bon, toi, tu as 52 ans, tu arrives au bout du travail. Mais pour des jeunes qui sont... Non, mais il faut dire les choses. Au pire, 65 ans, il a dit Macron, tu n'en as plus pour longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que des jeunes qui sont forts en épée et qui arrêtent leur carrière en valide à 30 ans, est-ce qu'on les suit derrière? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'on les aide? Comment ça se passe, là?
Alors, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, en tout cas, c'est la volonté, un, du ministère et puis même de l'Agence nationale du sport, c'est qu'il y ait le double projet. Aujourd'hui, un jeune qui est en structure fédérale, il a la partie études, elle est prépondérante et la reconversion est très importante. Donc, c'est vraiment aujourd'hui pris en compte par les instances sportives de pouvoir assurer aux sportifs une suite à leur carrière sportive. Voilà. Et aujourd'hui, un sportif qui est listé, il cotise pour sa retraite en tant que sportif. Voilà, il gagne des semestres. Hein. Voilà. C'est très important de se rendre compte que aujourd'hui, la donne a changé pour le sport, en tout cas pour un sportif.
Et en ce qui concerne le handisport et tout ce qui a trait, par exemple, aux Jeux paralympiques, est-ce que vous pensez que la jeune génération sera mieux traitée que vous, que ce soit d'un point de vue par rapport à ce que l'État peut fournir, des points de vue financiers, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'on vit de plus en plus dans une société dite inclusive. Et pourtant, on sent quand même qu'il y a encore une sorte de décalage et des inégalités. Mais est-ce que vous pensez que ça va beaucoup changer à l'avenir, que c'est déjà en train de changer ?
Bah oui, ça change. Ça sera forcément mieux. Maintenant, est-ce que ça sera l'inclusion comme on peut la souhaiter ? Bon, ça sera peut-être pas la génération suivante. Ça sera peut-être dans deux générations, on verra. Mais regardez, la loi de 2005, elle est toujours pas d'actualité dans les espaces publics. Il y a des espaces publics où prenez le métro à Paris. Voilà. Bah non, vous pouvez pas. Vous êtes en chaise, vous pouvez pas prendre le métro à Paris. Deux, trois stations. Quand l'ascenseur ne fonctionne ou pas. Enfin, voilà. Rien n'est fait. Enfin, en tout cas, tout n'est pas fait, on va dire, pour que cette inclusion soit effective.
Joris.
Bah, ça rejoint un peu ta question sur le handisport. J'avais une question pour Damien. Normalement, toi qui concours pour les JO de Paris en 2024, tu vas participer en même temps que les valides. Normalement, c'est ça, c'est au même moment Jeux Olympiques, handisport et...
Si tu étais bien, c'est pas possible.
Ah, ça sera pas le cas, d'accord.
C'est pas le cas. Pourquoi il y a un décalage, en fait ? Moi, je me plais à dire qu'il y a toujours une première partie, un concert, donc que les valides commencent, c'est bien. Enfin, voilà, c'est fait. Et plus sérieusement, je pense que les adaptations des locaux, enfin des stades, du village olympique, on a besoin d'un petit temps d'aménagement, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Donc du coup, non, les Jeux valides sont fin juillet et nous, on est fin août. Voilà. L'important pour moi, c'est plus dans l'ordre de la symbolique. De mon point de vue, les Jeux, c'est les Jeux aussi bien pour eux que pour nous. Donc on commence les Jeux avec les valides et on les termine avec les paras. Ce qui se passe au milieu, c'est une interruption, c'est un interlude, c'est un intermède, c'est l'entracte. Donc il n'y a pas la fin des Jeux quand les valides ont terminé, de mon point de vue. Hein. Et on ne recommence pas les Jeux. Pour moi, alors je ne sais pas ce qui va être fait réellement à Paris, hein, mais de mon point de vue, je pense que la flamme devrait rester allumée, par exemple. Et il devrait y avoir une seule cérémonie entre la fin des valides et l'ouverture des ondis, en fait. C'est un passage de témoin. C'est, voilà,
En fait, ça va se passer comment ? C'est pas comme ça que ça se passe ?
Alors, je sais pas. Je sais pas. De ce que j'ai compris, moi, au début, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait un enchaînement, en fait. Il n'y aurait pas il n'y aurait pas trois semaines, en fait. Il s'avère qu'a priori, il y aura quand même un peu plus de temps que prévu. Donc là, je suis pas assez, bien placé pour vous.
Donc tu as peur que l'effet médiatique des JO soit retombé, quoi, en fait.
Oh, alors pour le coup, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Vu ce qui s'est passé pour à Londres avec les Jeux anglais, en tout cas en Angleterre, ils ont su communiquer sur le paralympisme et sur leur équipe paralympique. Je pense et j'espère. Enfin. Je l'appelle de mes voeux, hein, que la France fasse aussi bien, voire mieux. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aussi bien, déjà. Et puis, c'est dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans le sens du vent. La médiatisation, forcément, on fait mieux qu'avant, quoi. Voilà. Donc, je pense que non, les médias seront là. Je pense que le public sera là. Je pense sincèrement que ça passe par le public. Hein. Mmh. Je sais que ce qu'on a vécu à Londres, c'est extraordinaire parce que les salles de sport étaient pleines à craquer pour les Paralympiques, alors que
ils n'ont pas une autre culture là-bas, les Anglos.
Oh, je pense que ça dépend surtout de la médiatisation que l'on veut bien mettre en œuvre pour les paras, tout
oui,
simplement.
Qui dépend de la culture du pays, quoi. Tout à fait.
Oui, de la culture, mais aussi des médias, tout simplement. Si les médias communiquent, le public, lui, il est fervent de ces athlètes, qu'ils soient handi ou pas. Finalement, je pense que le public s'en fout. Ce qu'il veut, c'est voir de la performance.
C'est ça.
Et quand vous voyez un athlète handi, qui soit assis sur un fauteuil, avec une jambe en carbone, il s'en fout. Le public, ce qu'il veut voir, c'est...
C'est la médaille.
C'est de la médaille, c'est de la transpiration, puis c'est des exploits sportifs. Et qu'on soit en fauteuil ou pas, c'est la même chose.
Hein. D'où ma question, si l'équipe de France paralympique ne ramène pas de médaille, est-ce que tu penses qu'on en parlerait autant ?
C'est pas possible.
Non, est-ce que tu crois qu'on en parlerait autant ? Oui, c'est pas possible. Mais
non, c'est pas possible.
Allez, on va dire dans un autre monde.
Dans un autre monde, il n'y aurait pas d'handicapés, donc ça serait bien.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Vu comme ça.
Non, pour répondre, oui, il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. pour se faire remarquer, il faut faire. Il faut
oui, c'est l'esprit cocorico, quoi. En fait, c'est ça qui met la lumière dessus, quoi.
Oui, ouais, il faut. Mais après, ça fait pas tout. Hein, la preuve, hein, 3 médailles. Aujourd'hui, peu de gens me connaissent et pourtant, voilà, je suis toujours là.
Mais je parle à Karima, ça fait 18 ans maintenant que tu as eu ta médaille d'or. Mais quand Claude me soumet de t'inviter à mon émission, je savais qu'il était Karima. Parce que j'avais gardé cette image de cette médaille d'or. Et ça paraît bête, hein, mais entre une médaille d'or et une médaille d'argent, des fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce que tu viens de dire, c'est vrai. Et on oublie la médaille d'argent. On oublie la médaille de bronze. On oublie tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on regarde, c'est ce qui brille.
Tout en
ça,
haut. Hein.
Oui, mais c'est pareil.
Si tu es en bas.
On parlait tout à l'heure de la différence entre l'Olympique, le Paralympique et un champion du monde. Moi, j'étais champion du monde. Voilà, on s'en fout.
Ouais, mais c'est un petit peu dans tout le sport. On va prendre le foot. Si Mbappé marque, on va pas regarder les trois qui l'ont fait la passe, quoi. On va regarder Mbappé. Donc, malheureusement, c'est vrai, il te manque. Tu vas l'attraper, là. C'est fait. Non ?
Ah non, c'est loin d'être, c'est loin d'être fait. Alors, déjà, pour faire les Jeux, il faut s'y qualifier. Déjà. Le chemin va être long. Et puis voilà. Donc, non, ça, rien n'est fait. Bon, je suis concerné, motivé, plus que de raison, quelquefois, mais non, c'est très très loin d'être
fait.
Tu
vas concourir en équipe et en individuel.
Oui, oui. En tout cas, par équipe, ça dépendra de l'entraîneur, hein, s'il me choisit.
Tes meilleurs espoirs, c'est l'équipe ou l'individuel ?
Moi, je suis plutôt un homme d'équipe, donc...
Oui, parce que quand t'as ton palmarès, c'est beaucoup par équipe, quoi.
Oui. Mais après, j'ai fait médaille en chocolat noir... Un quatrième à Londres, voilà, c'était le plus proche. Après, à Rio, j'étais blessé, donc c'était compliqué. Enfin, j'étais malade. Tokyo, j'étais pas du tout dans les perspectives de faire un truc en indiv, et du fait de la blessure, enfin bon, qui m'était arrivé 2 ans avant, là, je me suis cassé l'épaule. Voilà, malgré tout, je fais 4, 6, 5, donc bon, voilà. Ouais. Juste un petit truc à passer en indiv pour ramener la médaille en indiv.
Il manque un truc.
Voilà.
Il manque un
truc. Puis de toute façon, c'est fait maintenant sur un podium. Il y a une d'argent, 2 de bronze. Voilà, moi je les ai maintenant.
Et Radio Campus dira on a eu 2 médailles olympiques
à
la radio, t'imagines.
Mais j'espère pouvoir venir en 2025 vous la montrer, quoi.
Ah oui.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Jeux et notamment du côté performance et résultats. Mais vous, au quotidien, personnellement, qu'est-ce que le sport, ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui?
Karima ?
Ça a motivé notre entourage, surtout. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, hein, la motivation de faire quelque chose aujourd'hui, que ce soit sport ou autre, je trouve que c'est tranquillou bilou pour certains.
Oui, c'est une...
C'est aujourd'hui, c'est... En fait, il faut motiver les troupes aujourd'hui. Pour moi, hein, c'est mon ressenti aussi, ce que je capte. Où les gens sont blessés et il y a moins de motivation que nous à l'époque. Et on va dire, oh, ben, je vais m'arrêter, je suis blessé, je ne vais pas aller m'entraîner. Non, non, moi j'ai trimé, c'est à ton tour maintenant. Aujourd'hui, c'est tranquillou, je fais mon truc. J'ai ce projet-là, mais il y en a, ils ne se donnent pas à fond en fait.
Je pense qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau, il montre aussi que la valeur travail a du sens en fait. Et que... voir un sportif le jour J, le féliciter lorsqu'on parle de médailles, on parle de tout ça, mais on ne parle pas de tous ces sportifs qui s'entraînent comme des dingues et qui ne ramènent rien, quoi. Et ils sont là, ils font le même boulot que nous, ceux qui ramenons les médailles, mais je pense que c'est aussi montrer que quand on veut quelque chose, il suffit de mettre en place le travail nécessaire pour pouvoir obtenir ce que l'on veut et qu'on n'obtient pas tout en claquant des doigts enfin voilà, c'est rien n'est acquis et par contre tout est à apprendre et à apprendre. Voilà, donc je pense qu'elle est là les vraies leçons de vie que les sportifs amènent, c'est que on peut tout avoir si on s'en donne les moyens, que ça soit scolaire ou même professionnel, hein, tout simplement. Mais
tu posais une question qui va fâcher peut-être. Le doping dans le milieu handi.
Bah comme chez les valides. Hein.
J'allais dire ça fâche pas pour un doping, non ?
Non, ça fâche pas. Oui.
Non, moi ça me fâche pas.
Il y a une agence à l'FLD et l'AMA qui sont là pour
contrôler.
Pour contrôler.
Vous avez les mêmes contrôles que les valides ?
Oui.
Oui.
C'est pareil.
Et moi, c'est encore pire parce que je vois pas ce qui se passe. Bon, tu viens là, quoi. Et c'est chaud pour moi, en fait.
Les auditeurs la voient pas, mais c'est formidable d'avoir Karima, le sourire qu'elle a. C'est formidable. Quoi. Elle explique sa passion, quoi, en fait.
Donc, vous inquiétez pas, je suis pas dopée. On peut y aller, je leur dis.
Si, à l'Orangina.
Non,
mais c'est vrai qu'on parle de médailles, on parle tout ça dans le sport. On entend très peu parler de doping. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y a les contrôles moins poussés ou est-ce que parce que les Andy,
on parle de dopage dans le foot.
Il y a eu un bug là.
Oui, oui. Bon. Si, ça arrive. Hein.
Oui, ça arrive. Oui, ça
ouais,
arrive.
C'est ça plus arrive, rare quand même. Hein. Oui.
Et ils se dopent plus à la tequila ou autre comme ça que.
Oui, oui.
Ou à la chicha que.
Oui, bah, je pense que malheureusement, des gens malveillants, il y en a partout. Que ça soit chez
pas,
les footeux, chez les valides ou chez les ondis, c'est pareil. Voilà, malheureusement.
Mais c'est moins médiatisé.
Bah, c'est moins médiatisé parce qu'en règle générale, on n'en parle pas. Quoi. Voilà. Mais comme chez les valides, hein, on parle de cas. C'est vraiment exceptionnel quand on parle de dopage. Enfin, de mon point de vue, il y a beaucoup plus de cas que de ceux qui sont médiatisés. Mais après, moi je pars du principe que tout fraudeur n'a pas besoin d'être médiatisé. Enfin, c'est plutôt la performance qui doit être médiatisée, c'est pas ceux qui fraudent. Voilà. Donc on n'en parle pas, et tant mieux, on n'a pas à en parler. Voilà. On doit les oublier et puis pas en faire des choux gras. Quoi. C'est quoi ça, ça veut dire quoi? Faites des choux gras de la performance, faites des choux gras de ceux qui triment et ceux qui se battent pour obtenir leur médaille proprement. Voilà, c'est eux qu'il faut mettre en avant, c'est pas ceux qui se dopent. Et très bien qu'on n'en parle pas, très très bien.
Peut-être ma dernière petite question, parce qu'on arrive au bout. Dans tous les sports, il faut un entraîneur, il faut un coach. Est-ce qu'au niveau handi, il y a ce qu'il faut ou pas?
Tout sportif fait en sorte qu'il y ait ce qu'il faut. Enfin, moi, je sais que j'ai deux entraîneurs technique, j'ai un préparateur physique, j'ai une préparatrice mentale. Voilà, je me suis entouré de gens compétents autour de moi pour pouvoir performer. Ça, c'est sûr. Maintenant, en handi, on n'a pas l'INSEP, hein, donc on n'a pas de structure. C'est à nous de créer notre structure et de la financer, hein, tout simplement. Mais oui, oui, moi j'ai un entraîneur très très compétent qui a fait ses preuves, la preuve. Hein.
Moi, j'ai pas eu tout ce petit monde. J'ai eu surtout mon entraîneur en club valide, donc sur Bordeaux. Et mon coach en équipe de France, quand il s'agissait soit des compétitions internationales ou les stages, mais je n'avais pas de préparateur physique ou quoi. Bon, malheureusement, j'étais beaucoup blessée, donc je suis allée à Cap-Breton. Et là, effectivement, j'avais un préparateur physique et tout pour pouvoir revenir, on va dire, sur le bon chemin et pouvoir m'entraîner. Mais des fois, j'avais que 6 mois pour m'entraîner pour performer.
Ouais, je pense que c'est là où ça a un peu évolué, en fait, dans notre préparation. Voilà. On est un peu plus pris au sérieux qu'avant, en fait. Avant, Karima, elle avait un entraîneur et il faisait tout. Maintenant, et même pour les judokas aujourd'hui de l'équipe de France handi, hein, ils ont un préparateur physique, il y a une professionnalisation de la performance. En tout cas, en plus, c'est la volonté de l'ANS. C'est vraiment très important. De toute façon, on n'a pas le choix sur la performance. Si en France on veut aller au plus haut niveau, il faut faire comme ailleurs. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut un, bosser, puis deux, mettre tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Donc, de la performance. En escrime, l'expertise de l'escrime, c'est du domaine de la Fédération française d'escrime. On parlait du BEC, on parlait du CAM. On a des maîtres d'armes dans ces deux clubs qui sont très performants et très compétitifs. Il n'y a aucun problème pour que ces gens-là nous aident à aller à la performance. Donc que ça soit le maître d'armes du CAM, que je connais très bien, ou Dimitri Audren, qui est le maître d'armes du BEC, ils ont une qualité à enseigner le handi comme ils ont une grande qualité à enseigner les valides. Il n'y a pas de différence d'enseignement en soi. Les compétences, elles existent, il n'y a aucun problème.
Donc tu n'auras aucune excuse si tu ne ramènes pas Laura à Paris.
Mais de toute manière, je n'ai pas d'excuse. Voilà, j'ai juste de la motivation à avoir. Aucune excuse.
Peut-être le mot de la fin.
Le mot de la fin, je voudrais peut-être parler de mercredi prochain. Mercredi prochain, on va rentrer dans l'univers carcéral avec le sport. Il y aura une PJJ qui sera là et ça fait longtemps que je voulais parler de ça. Elle sera là avec Abdel Yandi qui intervient à l'USAP Box. Ça devrait être bien aussi. Merci Karima, merci Damien, vraiment vous avez fait très plaisir d'être là.
Eh ben merci beaucoup à vous de nous avoir invités, hein, puisque c'est encore une fois ce qu'on recherche, c'est-à-dire mettre en avant et parler de sport.
C'est le but de l'émission qu'on fait là.
Parler de parasport, oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous et merci à toi, Alain. Merci à toi, Joris. À présent, la fin de Sport Campus. On se quitte tout de suite en musique. On vous souhaite un excellent après-midi sur nos ondes. Et ne ratez pas Passage, votre magazine culturel, à 17h. Très bon après-midi.
Campus Bordeaux.
88.1.
Campus Bordeaux. 88.1.